Vous êtes bien sur Radio Orient, Wallis Glaise. Les titres de votre journal, un message fort, 17 pays ont appelé au désarmement du Hamas, on y revient en début de journal. Le roi du Maroc, Mohamed VI, plaide à nouveau pour un dialogue avec Alger, les précisions dans quelques instants. Un violent séisme de magnitude 8,8 a secoué le Pacifique au large de la Russie. Hier, l'alerte tsunami a été déclenchée dans plusieurs pays bordés par l'océan. On y revient dans quelques instants. Et oui, je vous le disais, 17 pays dont l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Égypte ont appelé le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Cet appel a eu lieu lors d'une conférence à l'ONU organisée dans la perspective de la création d'un État palestinien. Loïc Barrière.
La déclaration de New York préparée par la France et l'Arabie Saoudite souligne que la gouvernance, le maintien de l'ordre et la sécurité à travers tout le territoire palestinien doivent incomber uniquement à l'autorité palestinienne avec un soutien approprié. Cette déclaration précise que le Hamas doit mettre fin à son contrôle de Gaza et remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Outre la France et l'Arabie Saoudite, le texte a été signé par 15 autres pays dont le Brésil, le Canada, la Turquie, la Jordanie, le Qatar, l'Égypte, le Royaume-Uni ainsi que l'Union européenne et la Ligue arabe. À noter que ces pays condamnent aussi l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a salué une déclaration historique et inédite. Le chef de la diplomatie saoudienne Faisal Ben Farhan a lui appelé tous les autres pays à soutenir ce document d'ici début septembre. Les 17 États apportent également leur soutien au déploiement d'une mission internationale de stabilisation temporaire à Gaza. Cette mission serait destinée notamment à protéger la population civile, à soutenir le transfert des responsabilités de sécurité à l'autorité palestinienne et à fournir des garanties de sécurité pour la Palestine et Israël, y compris la surveillance d'un futur cessez-le-feu.
Et dans une déclaration séparée publiée à l'ONU, 15 pays occidentaux dont la France et l'Espagne ont affirmé leur soutien déterminé à la solution à deux États. Et parmi les signataires, 9 pays qui n'ont pas pour l'instant reconnu l'État palestinien expriment la volonté ou la considération positive de leur pays à le faire. Dans le reste de l'actualité, à Gaza, les agences humanitaires des Nations Unies ont de nouveau tiré la sonnette d'alarme. Le territoire s'achemine vers une famine. Le ministère de la Santé a annoncé que le nombre de Palestiniens tués par la guerre en cours depuis près de 22 mois dépasse désormais 60 000 morts. L'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur Gaza, tuant plus de 80 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon toujours la défense civile du territoire. Dans ce contexte, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain si Israël ne prend pas de mesures cruciales à Gaza, notamment en acceptant un cessez-le-feu. Le ministre français des Affaires étrangères, lui, Jean-Noël Barrot, a salué cette déclaration et félicité Londres de rejoindre l'élan diplomatique initié par la France. Toujours concernant Gaza, la France a annoncé qu'elle larguera à partir de mercredi 40 tonnes d'aide humanitaire sur le territoire après avoir repris dimanche dernier les opérations de livraison aérienne alors que l'ONU parle d'une situation de famine généralisée imminente. Dans son discours prononcé à l'occasion du 26e anniversaire de la fête du trône marquant son intronisation, le roi du Maroc, Mohamed VI, a réaffirmé une position qu'il dit, je cite, « claire et constante, le Maroc est disposé à un dialogue franc et responsable avec l'Algérie, fraternelle et sincère, portant sur les différentes questions en souffrance, je cite, entre les deux pays ». L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen. Les rebelles Houthis ont revendiqué cette attaque, affirmant avoir visé l'aéroport de Ben Gurion près de Tel Aviv. Par ailleurs, notez que la société propriétaire du navire Eternity Sea a attaqué et coulé par les Houthis plus tôt ce mois-ci, a appelé à la libération de son équipage au lendemain de la publication par les rebelles d'une vidéo affirmant qu'ils avaient sauvé les membres de l'équipage. Un sommet ministériel ministériel sur la guerre au Soudan prévu cette semaine à Washington a été reporté en raison d'un désaccord entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sur le contenu du communiqué final. Les Émirats arabes unis auraient exigé un ajout de dernière minute stipulant qu'aucune participation des forces armées ni des forces de soutien rapide ne serait permise dans la future transition. Le président libanais général Joseph Aoun effectue une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État libanais de ce niveau depuis plus de 25 ans. Elle est centrée sur la coopération énergétique. L'Algérie prévoit notamment d'accorder une aide financière initiale estimée entre 50 et 200 millions de dollars pour reconstruire des infrastructures publiques, des hôpitaux, des écoles, selon les sources libanaises et algériennes. L'ex-président américain a déclaré justement, il faut le dire, qu'il pourrait ne pas assister au prochain sommet du G20 prévu en novembre en Afrique du Sud, invoquant son rejet des politiques de ce pays. En Ukraine, 3 soldats ont été tués et 18 blessés mardi dans une attaque de missiles russes contre un camp d'entraînement militaire selon l'armée ukrainienne. Plus tôt, Donald Trump avait annoncé avoir donné un ultimatum de 10 jours à la Russie pour cesser les hostilités en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Des vagues de plus de 2 mètres sont attendues en Polynésie française après un tremblement de terre de magnitude 8,8 dans l'océan Pacifique. L'alerte au tsunami est généralisée dans tout le bassin pacifique de la Russie au Japon en passant par les États-Unis et l'Amérique latine. Arthur Claude Savoie.
Et oui Wallis, vous l'avez dit, mais c'est un séisme d'une violence exceptionnelle de magnitude 8,8 qui a frappé mardi soir au large de la péninsule du Kamtchatka dans l'est de la Russie. Ce séisme est le plus fort enregistré dans la région depuis 1952. Il a immédiatement provoqué une alerte au tsunami dans tout le bassin du Pacifique, entraînant des évacuations de la Russie jusqu'à Hawaï, en passant par le Japon, la Polynésie française et l'Amérique du Sud. Dans un communiqué, le Haut Commissariat en Polynésie française a annoncé que des vagues de 1,10 à 2,20 mètres sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi sur les îles Marquises, ce qui équivaut vers midi 27 heure française. Les sirènes d'alerte ont retenti vers 23h heure polynésienne cette fois-ci et la population a été mise à l'abri dans des zones de repli identifiées à l'avance. Xavier Marotel, le secrétaire général du Haut Commissariat, a prévenu que c'est un phénomène qui peut durer plusieurs heures avec plusieurs vagues successives. Alors pour revenir en Russie, les îles Kouriles ont été les premières frappées. Des vagues de 3 à 4 mètres ont submergé la côte, causant des inondations et des dégâts importants dans des ports. Mais je vous ai dit en introduction, la Russie n'est pas le seul pays touché. Le Japon a enregistré une vague de 1,30 m à côté de Miyagi. Les autorités ont donné des évacuations dans des zones côtières, notamment à Hokkaido. La télévision japonaise a diffusé une édition spéciale appelant à évacuer immédiatement et la centrale nucléaire de Fukushima a elle été aussi sécurisée. Des vagues de 1 à 3 mètres sont également possibles sur les côtes du Pérou, du Mexique, du Chili ou encore des îles Galapagos. Même Hawaï, la Chine et les Philippines ont activé leur protocole d'urgence. Face à ce phénomène d'ampleur, les autorités appellent les populations à ne pas s'approcher du littoral et à rester à l'abri jusqu'à la levée officielle de l'alerte.
Arthur Claude Savoie, mais c'est une alerte climatique de plus pour l'Europe et le pourtour méditerranéen. Le début du mois de juillet a été marqué par une sécheresse record. Selon les dernières données de l'Observatoire européen de la sécheresse, une situation inédite aux conséquences déjà bien visibles. Nadia Bencher.
Du 1er au 10 juillet, plus de la moitié des sols, exactement 52%, étaient affectés par la sécheresse. Un niveau jamais atteint à cette période depuis le début des observations en 2012. Même si ce chiffre recule légèrement par rapport à fin juin, il reste largement supérieur à la moyenne des 12 dernières années avec un écart de 21 points. Le phénomène est particulièrement intense en Europe de l'Est, au Kosovo, en Serbie et en Bulgarie. pays, près de 100% des sols sont touchés et plus d'un tiers sont déjà en alerte maximale. En Bulgarie, plus de 156 000 personnes ont été confrontées à des coupures d'eau mi-juillet. Même tendance en Hongrie, où près de la moitié du territoire est désormais en alerte. À l'est de la Méditerranée, l'Arménie et la Turquie sont aussi durement frappées. En Turquie, les vents violents ont attisé des centaines d'incendies. En Syrie, la sécheresse menace la récolte de blé et met en péril la sécurité alimentaire de 16 millions de personnes, selon l'ONU. À l'ouest du continent, la France et le Royaume-Uni ne sont pas épargnés. Deux tiers des sols français sont touchés, avec des alertes concentrées dans l'ouest. En revanche, l'Espagne et le Portugal restent relativement épargnés pour le moment.
Les précisions de Nadia Bencher. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.